Juste un verset, quelques versets, pardon, pour une petite introduction dans le partage que nous allons faire. Luc 17, versets 20 à 24. Luc 17, 20 à 24. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne verrez point. On vous dira « il est ici, il est là », n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Le texte de l'évangile de Luc donnait réponse aux pharisiens qui demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, comme il a été décrit, ne vient pas de manière à frapper les regards. Oh, Jésus ne fait pas du tape à l'œil. Il reviendra discrètement, comme un voleur, nous dit la parole de Dieu. Ce ne sera pas une production hollywoodienne. Je vous ai parlé du film du Fils de l'homme, mais ce sera justement un épisode de ce film que Dieu produit lui-même. Comme vous savez, je ne vous apprends rien, nous sommes le dimanche avant Pâques, dit dimanche des rameaux. La semaine dernière, je vous ai demandé que vous apportiez des rameaux, mais apparemment, ni même un âne. Appelé de la sorte, en sorte, en rapport avec le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, où les gens venaient déposer les rameaux et étendaient leurs vêtements au passage de Jésus. C'est un détail qui est rapporté par l'évangile de Matthieu pour info. Alors, pour la méditation de ce matin, c'est pas ce texte-là qu'on va prendre, je vous propose deux lectures qui se trouvent aussi dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 18, verset 31. Passage que je vous ai lu et relu et re-relu concernant l'affiche du fameux film du Fils de l'homme. Luc 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ça va ? Vous connaissez maintenant ce verset qu'on va suivre évidemment jusque vendredi. Et puis, un passage dans Luc 19, versets 29 à 38. Luc 19, 29, mon passage qu'on connaît évidemment très bien. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est fou, hein ? Petite phrase comme ça qu'elle a. Ils ne sont pas là pour adorer le Messie. Ils sont là pour les miracles qu'ils avaient vus. Je ferme la parenthèse. Et il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte qui nous parle, si nous voulons bien l'écouter. Seigneur, ouvre le cœur, les oreilles de notre cœur, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, que je puisse, moi aussi, entendre ta voix. Mais Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire, et merci pour cette parole encore qui a traversé le siècle, pour venir jusqu'à nous. Amen. Est-ce qu'on se souvient de ce qui se passait il y a 5 ans? On n'a pas oublié. Eh bien oui, effectivement, il y a 5 ans, on était dans une pandémie mondiale, dite Covid-19, Covid-19, parce que ça avance, le temps passe, mais du 29, on en aura peut-être bien un jour, mais du 19. Je suis désolé, mais j'ai une voix un peu rauque, mais je crois que j'ai ramassé. Bref. Il y a 5 ans, donc, je disais que nous étions dans une pandémie mondiale qui nous a surpris, n'ayant jamais vécu ce genre de choses. C'était une grande première. Que d'interrogations pour essayer de comprendre. Et encore aujourd'hui, encore des scientifiques qui essayent de savoir d'où c'est parti, ou comment c'est arrivé, etc., etc. Personnellement, je ne connaissais pas le mot, pandémie. Et puis, personnellement non plus, avant le tsunami, vous savez, le 26 décembre 2004, dans l'océan Indien, qui ravage la ville de Phuket, je n'avais pas non plus entendu parler du mot tsunami. Bon, bizarre, hein? Peut-être que vous avez entendu parler, vous. Moi, ce n'était pas dans mon dictionnaire. Bon. Pourtant, en 1600 avant Jésus-Christ, l'éruption du volcan de l'île grecque de Santorin provoque un tsunami avec des vagues d'une 20aine de mètres de haut. C'est énorme. Qui en Crète et qui contribue à la disparition de la civilisation complète de l'île. Eh bien, d'autres ont suivi. Alors que d'où? Je ne savais pas ce que c'était. Enfin, du moins, je ne savais pas ce que c'était. De même, la pandémie était connue depuis très longtemps. Le mot pandémie nous vient du grec ancien, pandémia, qui signifie le peuple tout entier. Et il a été employé pour la première fois en anglais en 1666 par le médecin britannique Gideon Harvey dans son livre sur la tuberculose. Il n'apparaît en français qu'en 1752 dans le dictionnaire de Trévoux. Pourtant, il y a déjà eu des pandémies, la lèpre, tuberculose, tout ça. Cette chose atroce qui était là était connue depuis longtemps. Mais pour moi, je n'ai pas pris attention. Parce que ça ne me touchait pas. Jusqu'à ce jour où on a vécu réellement. Non seulement j'ai aussi découvert le mot, ben peut-être vous aussi, mais on a surtout découvert les ravages et les conséquences de ce qu'il y avait derrière. Hélas, tant qu'on ne vit pas quelque chose, on ne s'y intéresse pas. Et si nous en avions entendu parler avant, on n'aurait peut-être pas bien compris, vu qu'on n'avait pas vécu. Ou parce que ça ne nous intéresse pas, ou que ça ne nous dérange pas, tant que ça reste loin. Hein. Et Jésus, lui, à l'époque, dérangeait les autorités religieuses de son époque. Pourtant, elles étaient au courant de la venue d'un Messie qui libérait le peuple de Dieu. Mais devant la personne physique de Jésus, les chefs religieux sont perturbés. Jésus ne correspond pas à leur vision du Messie. Ils ne comprennent pas. Ils s'interrogent. Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Il est là. Sous-entendu, si tu es bien ce que tu dis, alors montre-nous la puissance et le règne et libère-nous. T'as que ça à faire. Le peuple juif de l'époque de Jésus est sous l'emprise de l'Empire romain et n'espère qu'une chose, être libéré, être tranquille de cet envahisseur. Un peu comme nous avec le Covid, avec une chose à faire, être tranquille. De même que nous, quand nous regardons autour de nous, si quelqu'un vient avec des promesses pour nous apporter des solutions, il est souvent porté en triomphe. Mais les promesses des hommes ne sont pas à la hauteur de la déchéance humaine. Le monde veut être libéré des soucis terrestres. C'est un minimum. On prie pour les maladies, on prie pour la politique, on prie pour... On veut être libéré de ce qui nous entoure. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus le jour d'itérament. La foule, les disciples et tous ceux qui sont de passage à Jérusalem crient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! Enfin quelqu'un qui va nous sauver. Enfin un libérateur. » Pourtant, Jésus avait bien dit « Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. » Ils étaient prévenus pourtant. Aussi bien les disciples que les pharisiens, ils avaient tous la Torah, les prophètes, les écrits, tout était déjà là. Mais pas la Bible complète, parce que le Nouveau Testament est écrit après, mais tous les anciens, ils les avaient. Ils auraient dû discerner quand même les prophéties concernant le Messie et les comparer à Jésus. Ils auraient vu tout de suite que... Et même quand Jean-Baptiste, du fond de sa cellule, fait poser la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Voilà la réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Jusque-là, tout terrestre. Et ensuite, la bonne nouvelle est annoncée au pauvre. Il y a quelque chose de plus. La bonne nouvelle par rapport au ciel. Et à l'entrée de Jésus à Jérusalem, tout le monde aurait dû savoir que Jésus était le Messie. Mais tout le monde, même les disciples, n'ont pas compris. Ni même pris garde au dire de Jésus lui-même. Le texte que nous avons lu, verset 34, « Mais il ne comprit rien de cela, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont il ne saisissait pas le sens. » Luc 18, 34. Personne ne comprend, même pas les disciples. Les disciples comprennent pourtant c'était écrit par les prophètes, ils étaient au courant. Enfin, blâmons pas les disciples, hein, parce que je pense que si nous avions été là, parfois on dit on est dans ce cas-là parce que Adam il a péché. Quoi. Je sais pas ce qu'on aurait été fait si on avait été à la place de Adam. Nous avons les Écritures, mais nous ne comprenons pas tout. Et nous n'avons pas, peut-être pas envie de comprendre. Parfois, ou encore, on adapte les écrits à ce qui nous semble bon. C'est comme ça. Ça doit aller, donc c'est écrit, donc c'est comme ça. Oui, c'est écrit. Tout va bien. Tout comme le détail de l'âne. Ça, on le retient, ça. Apparemment, toute la foule connaît quand même la prophétie de Zacharie 9.9 que je vous lis. Zacharie 9.9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. » Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est même répété. Il est sur un âne. Quoi de plus? Matthieu reprendra cette prophétie, dite à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Que le Messie arrive sur un âne. Pourtant, ça ne choque personne que Jésus soit sur un âne. Tous, apparemment, sont convaincus que c'est bien le Messie annoncé et attendu. Mais les propriétaires de l'âne et de sa mère sont au courant. Même les propriétaires de l'âne sont au courant. Le Seigneur en a besoin. Et il ne crée aucun problème. Nous, on a parfois tendance à nous arrêter sur les détails. Et nous ne voyons pas le royaume de Dieu qui vient sans frapper le regard, sans extravagance. Il est là, sur le dos d'un âne. Mais ça avait été annoncé. Les Juifs attendaient un Messie glorieux qui les débarrasserait de l'envahisseur romain. Et la prophétie de Zacharie le disait juste et victorieux avant de parler de l'âne. Juste et victorieux. Et même s'il n'avait que de monture un âne, il était juste et victorieux. Or, ils avaient certainement l'espoir que l'événement de cette entrée un peu ridicule allait se transformer en guerre éclair, tel un cheval de Troie pour tromper l'ennemi. On le fait rentrer doucement, et puis après, boum! Sans doute n'était-il pas au courant que, de toute sa puissance et sa gloire, Dieu avait fait naître Jésus dans une étable. Et allait-il le confondre en triomphe démesuré devant tout le monde, tel un roi humain? Une fois parlé qu'il est arrivé dans une voiture, dans une grosse voiture, il serait peut-être rentré à Jérusalem, arrivé maintenant, il serait arrivé à Rolls-Royce, ou en papa mobile. Peut-être. Non. Jésus est arrivé discrètement. C'est la foule qui a fait, évidemment, qu'il soit porté en triomphe. Il n'est pas non plus arrivé avec une armure de guerrier, et que Jésus rendra simplement à Jérusalem, dira à Jérusalem, je suis dans un habit de douceur. Matthieu transcrira la prophétie de Zacharie en roi plein de douceur. Rappelons que Matthieu était quand même le disciple de Jésus et que ses écrits sont d'autant plus crédibles qu'il a vécu au quotidien avec lui. Alors écoutez les paroles qu'il rapporte de son maître, Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » L'évangile de Luc nous fera retourner aussi à la naissance de Jésus. Si on relit le cri que pousse la multitude des disciples, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Si on relit le début de l'évangile de Luc, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quelle concordance! C'est un homme de paix qui vient. Ce roi humble et serviteur est apparu comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous dira l'apôtre Paul dans Philippiens. Et oui, la joyeuse entrée prévue par le protocole royal, Jésus optera pour la rudesse du dos d'un ânon. Et en marque de reconnaissance des grands de ce monde, il préférera le dénuement et partager son sort avec des condamnés tout à fait ordinaires. Le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. Nous, on a tendance, en tant qu'êtres humains, à regarder autour de nous, à regarder l'apparence. Regardez Goliath, c'est un grand. Regardez celui-là, c'est un grand. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il faut allumer la télévision, parce que l'économie mondiale, quand j'ai écrit ça, on était vraiment dans le creux de la vague. L'économie mondiale, les droits de douane, l'argent, la guerre commerciale, comme ils disent, tout le reste est devenu superflu. Même les pays en guerre physique sont un peu mis de côté. Maintenant, on en remet. C'est plus une guerre psychologique qui se développe. Plus rien n'y fait, les bourses mondiales ont chuté. Et on est reparti. Le monde entier tremble. Même les chrétiens sont inquiets. Tels les disciples dans la barque sur la mer déchaînée, on ne voit que la tempête. Jésus sauve-nous, au secours. Jésus leur paraît comme un fantôme. On nous pourrait dire que dans cette nouvelle épreuve mondiale, Jésus est fantôme. Et Dieu nous a oubliés, comme disait Daniel la semaine dernière. Mais pour revenir à notre texte, il n'est qu'un homme sur un âne, sans plus. Nous pouvons y croire, l'applaudir même, mais le plus important est de le rencontrer. C'est bien de le voir. Ils les ont vus, ils sont venus voir ce qu'ils avaient fait. Ils ont applaudi les miracles qu'ils avaient fait. Pour aller vers Jésus, sur la mer, il faut sortir du bateau, marcher sur l'eau. Il faut le suivre sur le chemin qui mène à la croix et le voir ressuscité 3 jours après. Ça, c'est l'important. Alors ne soyons pas comme ces gens du temps de Noé, qui avait vu la construction de l'arche et restait indifférent, sceptique, égoïste. La foule qui voyait Jésus entrer dans Jérusalem criait sa joie de la libération. Mais comme Jésus n'était pas ce qu'ils attendaient, les gens plus tard, quelques jours plus tard, auront un autre cri. Crucifie, crucifie. Comme l'homme peut-il être si versatile? Comment est-ce qu'on peut changer d'avis du jour au lendemain, en quelques jours? Rien n'a changé. Que ça ne va pas comme on veut, ou que ça m'intéresse, ou que ça m'intéresse, ou quand ça me touche de près, alors, voilà. Parfois je critique, je rejette ce que j'ai mis à l'honneur il y a quelque temps. J'en ai pour exemple, à l'époque du Covid, les infirmières, le personnel soignant qui avait été confronté à cette pandémie, quand ils voulaient rentrer chez eux, étaient parfois mis de côté, parce que potentiellement contagieux. Ils étaient applaudis, mais après ils étaient critiqués. Rien n'a changé. Jésus s'est abaissé pour sauver le monde du plus grand des virus que la terre ait dû encaisser, le péché. Le péché qui mine, le péché qui ronge. Ce Jésus a été rejeté et mis à mort. Ah oui, j'oubliais. Il paraît qu'on ne peut plus parler de péché parce que ça traumatise les hommes et les femmes. On est traumatisé avec ce mot. Certaines églises n'utilisent même plus. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais bon. Alors, de quoi devrions-nous être sauvés? Je me souviens d'un témoignage d'un pasteur qui, justement, n'utilisait plus ce mot-là. Et prêcher, prêcher, prêcher. Et puis à la fin, il y a un petit garçon qui est venu tout près de lui et dit « Mais de quoi doit-on être sauvé alors ?» Je ne sais pas ce qu'il en est suivi, mais de quoi doit-on être sauvé? Alors malgré les cataclysmes annoncés par les prophètes et par Jésus lui-même, regardons le jour de notre délivrance, ce jour vraiment glorieux du retour de notre Seigneur. Mais attention, il viendra. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Alors, sommes-nous prêts? Plusieurs fois, j'ai vu ce verset passer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sommes-nous prêts? Alors, que voyons-nous? La mer agitée, l'âme porteur, la croix de bois simplement? Ou Jésus doux et humble de cœur qui nous tend la main pour nous sortir de l'eau et qui sur cette croix nous accorde le pardon? Est-ce que j'ai le droit à ce pardon? Ce pardon qui nous ouvre la porte du salut. Alors, si vous êtes prêts à suivre Jésus, je vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi pour la suite du film du Fils de l'Homme. Prochain épisode, le vendredi sombre. Alors que ce temps qui nous reste quelques jours, que nous puissions prendre conscience que notre vraie vie n'est pas terrestre, mais éternelle, dans les cieux, avec notre Père. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier. Parce que si nous sommes parfois peut-être malheureux, inquiets sur cette terre, nous savons qu'une place est réservée pour nous dans le ciel. Parce que toi, notre Seigneur, tu as ouvert la porte, tu as ouvert le chemin, au chemin de souffrance, mais ô combien glorieux pour nous. Seigneur, qu'à toi revienne toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.